biodiversité, agriculture biologique, environnement, zéro déchet, développement durable. Vous souhaitez communiquer, partager vos actions, parler de vos projets sur l'antenne de Radio Alpes-Mancel 106.3 FM.
Juste pour que ça dure.
Mon Bio Écomag vous informe sur différentes initiatives et expériences en faveur de l'environnement et du développement durable sur notre territoire.
Juste pour que ça dure.
Contactez le 02 43 33 24 56, le 02 43 33 15 15.
Juste pour que ça dure.
Écoutez Radio Alpes-Mancelles sur le 106.3 FM, votre radio associative en territoire Haute-Sarthe-Alpes-Mancelles. Consultez son site internet et rejoignez-nous sur la page Facebook de Radio Alpes-Mancelles.
Le printemps est là et avec la sortie d'hibernation de nombreux animaux et insectes. C'est d'ailleurs la période idéale pour installer vos pièges afin de lutter efficacement contre le frelon asiatique. À ce titre, je vous invite à la rencontre de Nicolas Fabre et de son entreprise AlphaGep. Nicolas, bonjour.
Bonjour Leslie.
Je vous invite à commencer notre échange en vous présentant personnellement ainsi que votre parcours jusqu'ici.
Alors moi Leslie, je m'appelle Nicolas Fabre, j'ai 44 ans, j'habite à La Ferté-Bernard. Et je viens de monter donc cette année mon entreprise qui s'appelle AlphaGep de désinsectisation sur le secteur de La Ferté-Bernard et je fais 70 km autour de La Ferté-Bernard. Donc moi mon parcours c'est j'ai démissionné de mon travail, je travaillais chez E-City pendant une dizaine d'années. En parallèle, j'ai une activité de plasticien, je dessine et aussi en parallèle, j'ai une activité d'apiculteur. Donc je suis apiculteur amateur, j'ai 4 ruches. Et donc l'année dernière, j'avais qu'une ruche et cette ruche a été complètement exterminée par le frelon asiatique. Donc c'est ce qui m'a donné envie en fait de faire cette activité cette année, de monter mon entreprise en parallèle de mes autres activités.
Donc vous avez créé voilà cette entreprise il y a peu, alors pourquoi ce choix d'entrepreneuriat ?
Pour déjà être à mon compte, pour lutter principalement contre le frelon asiatique. Et aussi pour la biodiversité. Et j'avais envie aussi de créer quelque chose, une entreprise quoi, enfin qui m'intéresse et surtout ne plus travailler pour les autres, travailler pour moi. Et puis enfin moi ce qui m'intéresse dans cette entreprise c'est aussi d'aller à la rencontre des gens. Enfin vous faites des kilomètres, vous rencontrez plein de gens, vous discutez et puis vous en même temps vous servez à la biodiversité. Donc c'est ce qui m'a beaucoup intéressé en fait.
Donc une société d'abord intitulée Gep Control. Alors pourquoi avoir changé de nom?
Alors c'était la boulette parce que donc j'ai choisi Gep Control à la base, mais Gep Control, je me suis aperçu que c'était une société qui existait déjà, qui était dans l'Aube, qui s'appelait Gep Control mais avec un E. Et mais j'avais vu qu'elle existait cette entreprise, mais en fait moi j'avais enlevé le E et je me disais Gep Control, ça devrait aller, enfin il n'y a pas de souci. Mais le problème c'est que ce monsieur dans l'Aube qui existait déjà depuis 5 ans, donc Gep Control avec un E, avait déposé ce nom en marque. Et en fait, quand vous déposez votre nom, moi j'ai déposé mon nom d'entreprise, l'INPI ne vous le dit pas en fait que cette marque existe. Et en fait, c'est une marque verbale, donc avec un E, un S, enfin, si vous rajoutez ce que vous voulez, comme c'est une marque verbale, moi j'avais enlevé le E, donc c'était pas possible. Donc ce monsieur m'a contacté et m'a fait part qu'il fallait que je change de nom parce que je commençais en fait à l'embêter niveau référencement, parce que j'ai eu un article de journal, tout ça. Et donc il y a des gens qui l'ont contacté en pensant que c'était moi. Et donc je l'ai eu au téléphone, il était très très sympathique. Et mais il m'a quand même dit qu'il fallait que je change de nom. Donc c'était la boulette. Donc j'ai changé de nom en AlphaGep. Donc Gep Control est mort et vive AlphaGep. J'ai déposé AlphaGep en titre de marque comme ça pour pas que quelqu'un la dépose également et puis m'embête à nouveau. Donc en fait je sollicite auprès de toutes les entreprises aussi de déposer et de faire bien attention de déposer leur nom en marque. Parce qu'il y a des entreprises qui vont déposer ce nom, un nom de marque, et peuvent vous embêter quelques années plus tard. Donc imaginez que vous avez votre entreprise depuis 4-5 ans et que vous n'avez pas déposé la marque. Une autre entreprise dépose ce nom de marque et peut, au bout de quelques années, vous demander de changer de marque. Donc c'est pour ça que c'est important en fait.
Donc aujourd'hui, vous proposez divers services, notamment en destruction de nids de guêpes, de frelons et de chenilles processionnaires, avec des amplitudes horaires que peu pratiques, 8h-22h et ce, 7 jours sur 7. Alors pourquoi ce choix ?
Les guêpes, pourquoi les guêpes ? Parce que depuis quelques années, en fait, à cause du réchauffement climatique, les guêpes sont de plus en plus nombreuses. On l'a surtout vu il y a 2 ans, l'année de sécheresse, et bien sûr, ça peut se reproduire. Les guêpes étaient énormément nombreuses. Donc les guêpes, à la base, c'est pas des nuisibles, les guêpes, elles sont essentielles à la pollinisation et à notre écosystème. Mais le problème, c'est que les guêpes font leur nid de plus en plus près de chez nous, dans les cons, dans les greniers, dans les toitures, tout ça. Donc ça représente un réel danger en fait pour nous, nos enfants, nos animaux. Donc c'est pour ça que je fais la destruction de nids de guêpes quand il est nécessaire. Après le frelon, il y a le frelon européen également. Le frelon européen, pareil, c'est pas nuisible. Alors je vais peut-être apprendre quelque chose, c'est que le frelon européen, on l'appelle frelon européen, mais il vient d'Asie également. C'est un frelon asiatique, mais il est chez nous depuis des millions d'années. En fait, il était là bien avant nous. Mais ce frelon également, si on s'approche comme tous les hyménoptères, si on s'approche trop près de son nid, il peut être agressif et peut piquer. Après, tous les hyménoptères, que ce soit la guêpe, l'abeille, même le frelon asiatique, c'est pas des races agressives. Ils vont pas venir nous piquer par plaisir. C'est que si on s'approche trop près de leur nid. Donc c'est pour ça qu'on fait de la destruction de nids, de guêpes, de frelons, quand ils sont trop près de chez nous, en fait, à proximité de nos lieux d'habitation, ou carrément dans nos habitations. Et le frelon asiatique, lui, par contre, il est considéré comme nuisible depuis 2012, mais de catégorie 2. Il est considéré nuisible parce qu'il il pose énormément de problèmes à la biodiversité. Il mange beaucoup d'abeilles. Un seul frelon peut manger entre 50 et 100 abeilles par jour. Donc imaginez une colonie de 10 000 frelons. Donc ça fait des ravages en fait au niveau de la pollinisation. Et il mange pas que des abeilles. Il mange aussi d'autres hyménoptères utiles à la pollinisation.
Vous nous avez expliqué pourquoi la guêpe, pourquoi le frelon, donc pourquoi la chenille processionnaire ?
Et ben la chenille processionnaire également, la chenille processionnaire qui est de plus en plus importante et nombreuse chez nous. Donc il y a deux sortes de processionnaires, il y a la processionnaire du chêne et la processionnaire du pin. Donc chez nous on a les deux, mais la plus dangereuse, je dirais que c'est la processionnaire du pin. Pourquoi la processionnaire du pin ? Parce que la processionnaire du pin descend de son cocon. Donc vous les voyez, ces petits cocons faits de boules de soie là. Ils descendent à cette période-là, enfin à partir de cette année, ils sont descendus bientôt. Même janvier, février, ils ont commencé à descendre. Mars, là, la saison est bientôt finie, entre guillemets, parce qu'ils sont descendus, là. Donc, ils descendent en procession le long du tronc d'arbre et vont s'enterrer dans la terre pour rentrer en chrysalide, pour se transformer en papillon. Parce que la processionnaire, c'est un papillon de nuit. Et donc, cette chenille processionnaire, pourquoi elle est considérée comme nuisible et dangereuse? C'est parce qu'elle a des poils urticants. Et il ne suffit pas de juste toucher la chenille. La chenille, si elle se sent menacée, en fait, elle va éjecter à une vitesse assez folle des nidards, des poils urticants. Par exemple, si vous regardez, vous vous baissez au niveau de la chenille à 50 cm ou 1 mètre, elle peut jeter ses dards dans les yeux, dans la bouche, dans la peau, ce qui va faire des réactions soit allergisantes ou ça va faire des boutons. Ça peut être dangereux, en fait, au niveau de la voie respiratoire, au niveau des yeux, voilà. Et pour les animaux, c'est encore plus dangereux parce que si un chien lèche ou sent une chenille processionnaire, ça peut engendrer une nécrose au niveau du nez, au niveau même des pattes, au niveau de la langue. Et si c'est pas pris à temps, on est obligé d'amputer en fait. Et ça arrive assez souvent. Donc voilà pourquoi aussi je fais la chenille processionnaire. Et contrairement, la chenille processionnaire du chêne, elle ne descend pas de l'arbre. Donc elle reste en cocon sur le chêne. Donc elle est un peu moins dangereuse pour les humains, entre guillemets. Mais elle est quand même, elle pose énormément de problèmes au niveau des arbres, parce qu'elle fait de la défoliation d'arbres, et à terme, ces arbres peuvent mourir en fait de fragilité en fait.
L'amour existe-t-il ? L'amour existe-t-elle ? Qu'on le dit dans les îles, on dit qu'il donne des ailes, qu'il donne des ailes aux îles, des idées aux oiselles, des oiseaux indociles, des faubourgs d'hirondelles. Je ne peux vivre sans îles, je ne peux vivre sans ailes, sans l'idée d'une idylle, dans les yeux d'une belle. L'amour existe-t-il ? L'amour existe-t-elle ? Qu'on le dit dans les îles, on dit qu'il donne des ailes. Du feu et du Brésil, du tambour de la grêle, du violon à tes cils, des larmes au violoncelle. Je ne peux vivre sans îles, je ne peux vivre sans ailes, sans
dans l'idée d'une idylle, dans les yeux d'une belle. L'amour existe-t-il? L'amour existe-t-elle? Qu'on le dit dans les îles, on dit qu'il donne des ailes. Des serres indélébiles, des bastions de rebelles, des étoiles qui filent, des frissons mortels. Je ne peux vivre sans île, je ne peux vivre sans elle. Sans l'idée d'une idylle, dans les yeux d'une belle. Des sept îles aux Seychelles, des sandwichs à Belle-Île, de Watt au septième ciel, de l'île d'Elba Belleville. Il court dans les ruelles, feu follet volatile. L'amour est l'essentiel, l'existence est son île. Je ne peux vivre sans île, je ne peux vivre sans elle. Sans l'idée d'une idylle, dans les yeux d'une belle. Je ne peux vivre sans île, je ne peux vivre sans elle. Sans l'idée d'une idylle, dans les yeux d'une belle.
Des services que vous proposez, comme on l'a dit, avec une amplitude horaire assez importante. Alors pourquoi ?
Alors je propose oui une amplitude horaire importante de 8h à 22h, 7 jours sur 7, parce que c'est comme tout en fait, c'est les problèmes arrivent souvent le week-end et c'est souvent en fait tard le soir qu'un nid-guêpe peut transpercer votre cloison en fait. C'est surtout pour ça le soir, parce que si vous voulez le frelon asiatique c'est un diurne donc enfin, il ne vit que la journée, donc il y aura pas de souci la nuit. Mais les guêpes, si vous voulez, elles peuvent rentrer donc par votre toiture. Donc vous voyez par exemple une guêpe rentrer au niveau de votre gouttière. Vous dites tiens, il y a un nid dans ma toiture. Et bien en fait, cette guêpe va pouvoir faire un petit cheminement, un chemin en fait, et va pouvoir atterrir derrière votre cloison, c'est-à-dire dans l'entrecloison, là où il y a la laine de verre, là où vous êtes isolé dans votre maison, par exemple dans une maison d'habitation. Donc le problème, c'est que cette guêpe, quand elle arrive, cette reine, et avec ses ouvrières, elles vont commencer à faire un petit nid. Et petit à petit, ce nid, il grossit en fait, il va grossir. Donc les ouvrières, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont manger et grignoter la laine de verre, enfin, ou autre isolant. Et bien sûr, à 22h, 23h ou 21h30, à un moment, il n'y a plus de place, et là, vous entendez du bruit, et ça veut dire que la guêpe, elle est en train de grignoter le placo, la feuille de placo, et là, pouf, elle fait un trou, et là, si elle fait un trou, elle peut être dans votre pièce de vie, et là, il peut y avoir des centaines et des centaines de guêpes le soir chez vous. Donc, ça arrive assez fréquemment. Donc, souvent, les gens se trompent, ils entendent un bourdonnement ou un grattage dans les cloisons, et en fait, ils pensent que c'est des souris, mais souvent, c'est des guêpes aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai cette amplitude, en fait, jusqu'à 22h. Et après, si vraiment il y a une urgence, si on m'appelle à minuit, parce que souvent après, les gens, en fait, quand il se passe quelque chose comme ça, ils appellent les pompiers. Et souvent après, les pompiers appellent des professionnels. Et moi, si on m'appelle pour une urgence à minuit, bien sûr, je vais y aller, quoi.
Installé sur la Ferté-Bernard, quelle est votre zone géographique d'intervention?
Alors, ma zone géographique, j'ai étendu ma zone à 70 km autour de la Ferté-Bernard pour atteindre des grandes villes, pour atteindre tout le périmètre du Mans, pour atteindre le Vendôme, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou, Mortagne-au-Perche, tout ce périmètre, voilà. Donc j'ai 70 km autour de la Ferté-Bernard. Et je couvre tout le territoire du parc naturel régional du Perche.
Et des services moyennant quel tarif en moyenne?
Alors pour mes tarifs, je débute à 80 € pour un nid et à hauteur d'homme. Donc le nid à hauteur d'homme, c'est un nid à moins de 2 mètres. C'est un nid à moins de 2 mètres, il peut être au sol, il peut être dans une haie, il peut être dans une petite grange, dans un cabanon. Donc là, je suis à 80 €. Après, les tarifs de tous les désinsectiseurs, ça monte suivant la hauteur. Donc après, de 2 à 6 mètres, je vais être à 100 euros. Donc ça, c'est des nids accessibles avec une échelle. Donc je prends l'échelle et je peux atteindre le nid entre 2 et 6 mètres. Donc ça, vous en avez dans les arbres, dans les haies, dans les camps de haies, sur les murs, les bâtiments, les hangars. Après, ce que j'appelle les nids en hauteur ou non visibles, donc de 6 à 15 mètres, ou également les nids qui sont, comme je le disais précédemment, qui sont entre cloisons, parce que ça peut prendre du temps en fait de les rechercher avec la caméra thermique. Donc là, je suis à 120 euros. Et après, les nids, tout ce qui est nids spécifiques et accès difficile, donc les nids entre 15 et 30 mètres, donc c'est les nids de grande hauteur qui sont dans les arbres, surtout les frelons asiatiques, dans les combles, dans les toitures, les surtoitures, dans les cheminées aussi. Et là, je suis aux alentours de 160 euros. Après, si vous avez besoin d'un diagnostic et une recherche de nids, donc une analyse et un conseil, c'est entre 0 et 20 mètres. Par exemple, vous m'appelez, vous savez pas s'il y a un nid, mais vous pensez qu'il y a un nid quelque part. Là, je suis à 40 euros. Et bien sûr, ce tarif, enfin, c'est gratuit si j'interviens sur le nid.
Nous arrivons dans la période de réveil des reines fondatrices de frelons asiatiques. Alors, quelques mots d'abord sur cette espèce et de son arrivée en France.
Alors, le frelon asiatique est arrivé en 2004 dans la région du Lot-et-Garonne, donc avec l'importation de poterie chinoise. Donc, ça vient de la région de Shanghai, je crois. Et en fait, cette reine est arrivée vraiment au bon moment, quand il fallait. Donc, elle a hiverné en fait pendant tout le transport. Et au moment du mois de mars, quand les températures sont aux alentours de 15 degrés, la reine s'est échappée et maintenant a colonisé tout le territoire français, même européen. Donc voilà le cheminement du frelon asiatique. Le frelon asiatique, donc c'est un hyménoptère qui a besoin énormément de protéines pour nourrir ses larves. Donc c'est pour ça qu'il s'attaque énormément aux abeilles, parce que l'abeille est bourrée de protéines. Donc quand il attaque une abeille, il l'attrape, il coupe la tête et il garde que le thorax. C'est bourré de protéines et il l'emmène pour ses larves en fait dans son nid. Donc la reine fondatrice va hiverner tout l'hiver. Elle va sortir au printemps aux alentours de 15 degrés et là elle va faire son nid primaire. Son nid primaire, elle va le faire souvent à une hauteur inférieure à 3 mètres. Donc elle va le faire sous les gouttières, elle va le faire dans une grange, dans un cabanon. Donc on peut les voir en fait. On peut les voir et si jamais on voit un nid primaire d'une reine frelon asiatique, on peut avec un bocal attendre le soir ou la nuit. Mettre le bocal, alors il faut attendre que la reine soit là, donc c'est mieux d'y aller le soir ou la nuit, parce qu'elle va être dedans, et puis là vous pouvez l'enlever. Après le problème, c'est si on laisse ses nids primaires, au bout d'un moment, la reine fondatrice, donc il va être trop petit le nid, elle va changer de nid, ce qu'on appelle, elle va faire un nid secondaire. Et la plupart des nids secondaires du frelon asiatique se trouvent dans les arbres, donc ils aiment bien les arbres, être très très haut, pour pas être embêté, entre 12 et 30 mètres, jusqu'à 30 mètres de haut. Donc là elle va faire son nid secondaire. Peut y avoir dans ce nid secondaire entre 3000 jusqu'à 15000 frelons, donc ce qui est énorme. Il faut savoir que dans un nid secondaire, donc de par exemple de 10000 frelons asiatiques, il peut y avoir jusqu'à entre 200 et 500 reines fondatrices. Donc ces reines fondatrices, une fois que le nid secondaire il est fait, arrive la période de l'hiver. La période de l'hiver, les reines vont sortir de ce nid et vont aller se faire féconder. À partir de fin août jusqu'à septembre, octobre. Mais après, ces reines fondatrices ne vont pas re-rentrer dans le nid. Elles vont sortir du nid, elles vont se faire féconder, et après, elles vont rentrer en ce qu'on appelle en hivernation. Donc elles vont hiverner soit dans la terre, soit dans les tas de bois, ils adorent les tas de bois, enfin, dans un endroit au chaud, en fait, pour passer l'hiver. Et ainsi de suite, le cycle reprend, en fait. Par contre, toutes les ouvrières dans ces nids vont mourir à cause de l'hiver. Mais c'est vrai que maintenant, les climats sont de plus en plus doux, donc il y a beaucoup de gens qui disent non, toutes les ouvrières ne vont pas mourir. Mais a priori, les ouvrières meurent quand même, parce que les ouvrières durent à peu près entre 6 mois et 1 an, quoi, donc les reines, ça dure plus longtemps. Donc voilà.
Songs in my make me go back. Bada bada bum, one another day. one at a beat pound like a heart in my chest.
See the monster.
You can sing along now, show the world you ain't scared. Wicked animals going out of control, we no worries or fear.
Donc une espèce nuisible à nos abeilles, on l'a bien compris, et par définition à notre biodiversité. Donc pour lutter contre ce nuisible, que nous conseillez-vous ?
Alors ce qui est conseillé en fait pour lutter contre le frelon asiatique, donc c'est vrai que beaucoup de spécialistes disent que maintenant en fait sa progression est inarrêtable. En fait, il est installé sur notre territoire et on peut pas l'arrêter. C'est malheureux, mais c'est vrai, on peut pas l'arrêter. Donc en fait, ce qui est conseillé là, c'est faire du piégeage. Donc il y a trois périodes de piégeage. Là, une des périodes les plus importantes, c'est l'hivernation, donc on est en plein dedans. On peut essayer de piéger donc la reine fondatrice qui va sortir d'hivernation. Mais par contre, moi ce que j'ai à dire, c'est que tout le monde veut faire les choses bien et piéger. Et il y a beaucoup de gens en fait qui piègent avec des bouteilles, vous savez, à l'ancienne, comme on faisait pour les guêpes. Donc on fait un trou dans la bouteille et puis après on met ce qu'on appelle un appât. Donc on met, souvent c'est un tiers, un tiers, un tiers, donc c'est un tiers de vin blanc, un tiers de grenadine, donc de sucre, et un tiers de bière. Donc ça, c'est des appâts qui attirent énormément les frelons asiatiques, je dirais. Mais le problème des bouteilles est déconseillé maintenant par le GDSA, le Groupement Sanitaire Apicole, et toutes les associations pour la biodiversité, parce que le problème de ces pièges, c'est qu'ils ne sont pas sélectifs. En fait, vous allez piéger, il y a des études qui ont été faites, vous allez piéger un frelon pour environ 300 espèces utile à la biodiversité. Donc ces espèces, c'est pas que les abeilles. Ces espèces, c'est les diptères aussi, c'est tout ce qui est mouches, moustiques, moucherons, les cirques. Et après, donc les hyménoptères, donc il y a les abeilles, mais il y a les guêpes aussi. Donc les guêpes à cette période-là, faut pas les tuer. Il y a les bourdons, donc les frelons européens aussi qui sont pas considérés comme nuisibles. Les fourmis aussi, c'est les hyménoptères et ça pollinise. Il y a les coléoptères aussi, donc tout ce qui est coccinelles, scarabées, hannetons, tout ça, étoiles. Et les lépidoptères, donc les papillons de jour, les papillons de nuit. Donc tous ces insectes peuvent être piégés dans ces bouteilles et ne peuvent pas ressortir. Du coup, c'est pas top, quoi. Donc moi, ce que je conseille pour le piégeage du printemps, c'est essayer de trouver des pièges sélectifs. Donc maintenant, il y a pas mal de gens qu'on fabrique, qui en vendent. Il y a des associations comme l'association Robida qui vend un très bon piège sélectif. Et le piège sélectif, c'est une grille. Donc c'est souvent fait à l'imprimante 3D. C'est une grille qui laisse passer donc le frelon asiatique, mais avec un petit trou en fait de 5,5, c'est souvent ça. Mais il laisse pas passer le frelon européen déjà. Et tout autour de la grille, il va y avoir des trous de 5,5 où tous les autres insectes vont pouvoir ressortir. Tout ce qui est mouches, abeilles surtout, lépidoptères, enfin tous ces insectes vont pouvoir ressortir. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais ce qu'il faut faire aussi dans ces pièges, c'est que l'appât ne soit pas en contact direct. C'est-à-dire quand les hyménoptères vont rentrer dans le piège, l'appât est protégé par une grille. Ils vont être attirés par l'odeur, mais ils n'auront pas accès à l'appât. Donc c'est bien parce que justement tous les insectes ne vont pas se noyer dedans. Et une fois que le frelon asiatique rentre, c'est comme un cône en fait, il rentre dans ce trou et après il ne peut pas ressortir du coup. Donc mais il peut pas atteindre l'appât et du coup ces pièges ils sont bien faits, donc parce qu'après on peut enlever l'appât, changer l'appât, parce que l'appât faut le changer toutes les semaines pour qu'il ait une odeur en fait attractive. Donc faut le changer ouais toutes les semaines, tous les 10 jours à peu près quoi. Et donc voilà le principe du piège sélectif. Donc c'est vrai qu'il y a une grande campagne cette année, on en voit partout, dans les journaux, à la radio on en parle, ben voilà j'en parle, enfin sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de piégeage des reines fondatrices, donc tout le monde peut faire de très bonnes actions et tant mieux, c'est cool quoi, mais par contre ouais, je vous en prie, essayez de faire du piégeage sélectif, parce que sinon comme on dit, une action amène une réaction et petit à petit sera négatif. Mais je vois de plus en plus de gens qui m'ont appelé Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur Tourigny-sur-Doué qui m'a appelé, qui me disait « Oui, moi, je fais des pièges à bouteille. » Et c'est vrai que j'ai vu que c'était pas sélectif. Et justement, il se renseignait comment avoir un piège sélectif. Donc c'est super, en fait. Les gens commencent à prendre conscience de ça. Après, au niveau du piège, il y a la période de croissance. Donc la période de croissance, là, c'est on peut agrandir le piège. Là, c'est on va plus prendre la reine fondatrice. On va prendre ce qu'on appelle les chins, les ouvriers, les ouvrières, qui vont aller chercher les protéines. Donc là, ces pièges-là, on les met souvent près des ruches, parce que justement, les ouvrières vont aller prélever des abeilles. Donc là, c'est des pièges, c'est exactement la même chose, c'est des pièges, mais un peu plus grands. Ça, c'est le même principe, mais il faut toujours que ça soit sélectif. Voilà. Et après, il y a le piégeage aussi, quand la reine sort de son nid pour être fécondée, là aussi, il faut du piège. En fait, il faut piéger pratiquement toute l'année. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment accentuer la chose sur le piégeage sélectif, parce que si on piège toute l'année pour le frelon asiatique, il faut vraiment prendre que du frelon asiatique. Voilà.
Et bien que nouvellement créée, la clientèle est-elle au rendez-vous ?
Alors la saison, elle n'a pas encore vraiment commencé. Donc j'ai fait quelques interventions en chenille processionnaire, mais la saison va commencer. Donc cette année, beaucoup de spécialistes disent que ça va commencer plus tôt. J'ai un collègue que j'ai appelé, il a déjà commencé, il est du côté de Vendôme, il a fait deux interventions pour des guêpes déjà. Normalement, une saison pour les nids de guêpes, les nids de frelons, ça commence au mois de mai. Mais là, il y en a beaucoup qui disent que ça va commencer au mois d'avril, mi-avril, quoi. Donc voilà. Et je continue à me faire connaître. J'ai fait des flyers, des cartes de visite, et puis voilà.
Justement, des projets pour votre entreprise pour les mois à venir ?
Ben, mes projets, c'est là, j'ai fait mon véhicule. Je continue à m'équiper en matériel, parce que le matériel de désinsectisateur, c'est un petit budget aussi. Il y a une perche en carbone qui vaut assez cher. Il y a les produits, il y a pas mal d'accessoires. Il y a la voiture de fonction. Donc mes projets, c'est continuer à me faire connaître, à démarcher pareil des communautés de communes, les mairies, et puis mettre des flyers aussi chez les gens, et puis voilà. En fait, c'est se faire connaître, parce que je suis pas tout seul, en fait. Il y a pas mal de monde quand même sur le secteur, et donc voilà.
Avant de nous quitter, je vais vous inviter à nous donner vos contacts pour nos auditeurs qui souhaiteraient faire appel à vos services.
Alors, si vous avez besoin de mes services, vous pouvez m'appeler au 06 63 15 21 14. Vous pouvez aller sur mon site également et me contacter par mail. Donc, mon site, c'est alphagep, donc alphagep.fr. Voilà. Et mon mail, c'est alphagep, donc attaché, @gmail.com. J'ai aussi, je suis présent et actif sur le réseau social Facebook. Donc c'est alphagep, alpha plus loin gep. Et pour l'instant, Instagram, je suis pas encore très actif. Mais sur Facebook, je suis actif. J'essaie de poser des posts d'information, de sensibilisation, de tout ça, quoi. Donc, qui est important pour moi.
Nicolas Fabre, je vous remercie pour votre participation sur notre antenne et je vous souhaite une belle journée et une belle continuation surtout.
Merci Leslie, merci de m'avoir entendu et puis accueilli en tout cas.
C'est avec
merci
plaisir.
Beaucoup. Au revoir Leslie.
Au revoir.